déficit selon les normes comptables qu'on prend. Mais si on prend les normes comptables de la Cour des comptes, qui sont celles de l'État, il n'y a effectivement rien de neuf sur le soleil. 6,6 milliards, c'était ce qu'il y avait dans les comptes pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et moins 15 milliards à l'horizon 2035 et moins 30 milliards à l'horizon 2045. C'est exactement les projections du Conseil d'orientation des retraites d'il y a 8 mois. Simplement, ils sont un petit peu dégradés parce qu'entre-temps, la croissance s'est affaiblie dans les premières années. Et évidemment, c'est un peu plus dégradé. Mais c'est exactement la même chose. C'est les mêmes hypothèses que le corps. Mais c'est de toute façon, la Cour des comptes, elle n'invente pas les chiffres, en principe.
Agathe Lebertin.
Il faut revenir sur pourquoi on a été obligé d'avoir ce chiffre-là. C'est quand même que le Premier ministre François Bayrou nous a parlé d'un déficit caché et commencé à nous dire qu'il allait falloir payer encore plus. Enfin, il fallait revenir aux chiffres qu'on avait du Conseil d'orientation des retraites. Il n'y a pas de déficit caché. Il n'y a plus les chiffres farfelus du Premier ministre. Et par contre, là, la question, c'est comment on retrouve, pour la CGT, pour les autres organisations syndicales, le chemin de l'abrogation de la dernière réforme des retraites. Comment on trouve le moyen de financer cette abrogation et puis de revenir après sur le chemin de la retraite à partir de 60 ans, qui est une revendication de la CGT. Ce que ça montre aussi, ce rapport, le rapport de la Cour des comptes, c'est que la réforme, elle n'a pas réglé le problème de financement. On nous disait, on repousse l'âge de départ à la retraite pour régler les problèmes d'équilibre du système, et ça ne fonctionne pas. C'est donc bien qu'il faut trouver des ressources pour financer nos retraites.
Et ils sont inquiets sur la pérennité du système.
Leur futur,
dire qu'il y a eu un tellement grand nombre de réformes et vraiment très régulières, il y en a à peu près une tous les 5 ans, que forcément ça rassure pas tellement sur l'avenir. Après, c'est pas le seul sujet de préoccupation des Français, ils sont aussi très inquiets par rapport au pouvoir d'achat et également par rapport aux questions de sécurité. Mais c'est évidemment, ça fait partie des inquiétudes dans la population.
Oui, parce qu'il y a...
Pas forcément. J'ai jamais pensé que la capitalisation était la solution au problème.
Vous pouvez nous expliquer le mécano de ce que c'est que la retraite par capitalisation.
Contrairement à ce que croient beaucoup de Français, quand dans un système par répartition, alors déjà on part de la situation française, on est dans un système par répartition essentiel. Il y a des fonds de pension privés, c'est les plans d'épargne retraite, que les Français d'ailleurs adorent. Mais le problème, c'est qu'il faut se trouver dans une entreprise qui se trouve là. Il y a aussi les fonctionnaires, et d'ailleurs les syndicats gèrent un fonds de capitalisation pour les primes des fonctionnaires, ça s'appelle les RAF, pas la satisfaction de tout le monde, y compris des organisations syndicales. Mais c'est vrai qu'en France, on a très peu de capitalisation.
Et donc, il en faudrait plus pour vous.
Alors, déjà, le système par répartition, il faut bien comprendre que vous ne cotisez pas pour votre retraite. Vous payez les retraites en cours. Par capitalisation, vous cotisez pour vous, quitte à ce qu'il y ait de la redistribution. C'est-à-dire, on peut très bien, évidemment, faire des minimums vieillesse, des redistributions, des validations de trimestres, comme vous voulez. Mais, effectivement, vous épargnez pour vous. Donc, cette cotisation vous appartient. Voilà. Et d'ailleurs, il faut une protection juridique particulière pour éviter que l'État, éventuellement...
Mette la main dessus ?
Prenne dans la caisse. Ah. Parce que depuis Philippe le Bel, il y a l'État et le trésor des Templiers, l'État a toujours été tenté de piquer dans la caisse.
Voilà.
On est contre la retraite par capitalisation. Pour nous, ce n'est pas un pilier, c'est plutôt une béquille, parce qu'il y a de nombreuses faiblesses dans le système par capitalisation des retraites. Il y a peut-être quelque chose qui a été oublié dans la précision sur ce qu'est notre système de retraite. C'est un système par répartition, mais c'est un système qu'on appelle à prestation définie. Ça veut dire que je passe à la retraite et mon niveau de vie est garanti, puisque mon niveau de vie à la retraite est arrimé sur mon dernier salaire, sur mon salaire précédent. Et les systèmes par capitalisation, la majeure partie du temps, sont des systèmes qu'on appelle à cotisation définie, c'est-à-dire je sais combien je paye, mais je ne sais pas combien je récupère. Et c'est le principe même de ces systèmes par capitalisation qui ne garantissent pas pour leurs souscripteurs la garantie d'avoir une rémunération à la retraite. Et c'est d'ailleurs pour ça que les systèmes par capitalisation qu'on a eu historiquement en France se sont effondrés, les systèmes.
Il y en a eu à quel moment ?
En 1910, on a mis en place des retraites ouvrières et paysannes qui se sont effondrées au moment de la guerre. On a mis en place des assurances sociales qui se sont effondrées avec la crise financière de 1929. Et c'est normal parce qu'il y a les aléas financiers que notre système par répartition à prestations définies ne fait pas prendre le risque tel
ou... Vous entendez ces craintes, Bertrand ?
Ah, totalement. De censé, je crois, ne propose de passer à 100% de capitalisation. Il s'agit de diversifier les risques. Capitalisation, vous avez un risque financier, ça se gère. Il y a des pays qui ont des gigantesques fonds de pension de milliers de milliards, et ils le gèrent, il n'y a pas de problème. Il faut de la trésorerie, c'est une question de gestion financière. Maintenant, si vous dites qu'il y a un krach boursier qui dure 30 ans et on ne s'en remet pas, oui, le système disparaît. Mais en fait, un système par répartition, si vous avez moins 20% du PIB, de toute façon, il va disparaître aussi. S'il y a une guerre, s'il y a quelque chose. Donc ça ne tient pas. En revanche, il faut savoir, il y a quelque chose de très important, c'est que vous dites la capitalisation c'est risqué, la répartition c'est pas risqué. Je suis désolé, un jeune aujourd'hui, vous avez un risque politique sur la répartition, c'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui rentre sur le marché du travail, est-ce que vraiment il va croire les promesses que lui font un gouvernement dans 45 ans ? La réponse est non, évidemment. D'ailleurs, vous-même, quand vous êtes rentré sur le marché du travail, j'imagine, on vous a fait une promesse que vous n'allez pas avoir. Vous allez avoir une retraite beaucoup plus faible que celle que vous imagineriez avoir quand vous êtes rentré sur le marché.
Agathe Le Berdaire, et après, de mettre en place les dispositifs de financement qu'il faut pour assurer le système à prestations définies dont j'ai parlé. Et c'est les propositions qu'apportait la CGT. Elle les a portées déjà il y a quelques mois lors d'une conférence de financement. Si on mettait en place un dispositif de contribution technique assis sur l'égalité femmes-hommes, en fait, est-ce que les entreprises respectent ou pas l'égalité femmes-hommes, auquel cas elles doivent contribuer plus, ça rapporterait 6 milliards d'euros au régime de retraite. Si on faisait contribuer l'intéressement, la participation, qui aujourd'hui sont des modes de rémunération qui ne cotisent pas du tout pour la retraite, on gagnerait entre 2 et 4 milliards d'euros. Voilà, il y a plein de ressources, de propositions qu'on a faites et qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte et qu'on va mettre sur le devant de la scène.
Il faut justement introduire ou pas de la capitalisation. On a 55% des Français qui disent on préfère garder le système par répartition et 35% qui disent ça serait bien d'introduire un peu de capitalisation. Donc voilà, donc les ordres de grandeur, c'est quand même plutôt une majorité pour conserver la répartition. Après, il y a un souhait quand même de modification de la réforme, puisqu'une grande majorité, plus de 60% des Français souhaitent qu'on revienne à 62 ans. C'est peu probable que les négociations arrivent à cet objectif, mais en tout cas, il y a cet espoir-là qui est encore dans la population française. Maintenant, il faut peut-être ajouter un élément au débat, qui est que le système des retraites est extrêmement compliqué. Il n'y a qu'un tiers des Français qui disent qu'ils arrivent à comprendre comment ça fonctionne. Et quand on les interroge vraiment, il n'y a plus que 8% qui donnent vraiment des réponses exactes.
C'est pire quand ils arrivent à la retraite.
Alors, quand on se rapproche de la retraite, on se renseigne un petit peu plus, donc on connaît un petit peu mieux. Mais par exemple, les gens sont incapables de savoir quel va être le montant qu'ils vont toucher au moment de la retraite. Donc il y a beaucoup d'incertitudes.
Il y a un appel
insupportable pour les gens. Enfin, les gens, on leur a demandé de travailler 2 ans de plus avec cette réforme des retraites que tout le monde refusait, qui a été adoptée de façon complètement antidémocratique. Et là, on nous demande de travailler encore des jours gratuits. Enfin, on marche sur la tête.
Enfin, dans son intérêt, c'est-à-dire dans notre intérêt futur, celui des retraites. On ne le fait pas pour l'État, pour le coup, on le fait pour soi.
Mais posons aussi les questions autrement. Il y a d'autres sondages, par exemple, qui disent que les Français, ils sont prêts à payer plus de cotisations, par exemple retraite, plutôt que de travailler plus longtemps. Ça, c'était un sondage paru en 2023. Et c'est comme ça qu'il faut poser les questions aux gens. Est-ce que vous êtes prêts à mettre en place cette contribution dont j'ai parlé sur l'égalité femmes-hommes pour pouvoir abonder les caisses de retraite et pouvoir partir plus tôt à la retraite? C'est comme ça vraiment
plus
qu'il faut...
Plus de cotisations, Bertrand.
C'est économique, il y a quand même un petit problème de pouvoir d'achat, les salaires nets sont quand même très faibles en France. Si vous augmentez les cotisations, vous taxez l'intéressement, vous devriez savoir que l'intéressement, ça touche quand même beaucoup des salariés modestes. Donc vous allez taxer l'intéressement, la participation, vous allez augmenter les cotisations pesant sur le... Alors c'est bien ce que je dis, pour sauver le système par répartition tel qu'il est aujourd'hui, c'est tout à fait possible, sauf que mathématiquement, ça veut dire qu'on fait payer génération après génération des charges de plus en plus importantes pour des générations qui vont avoir des retraites de plus en plus faibles. C'est inéluctable. Donc ça peut être un modèle...
La capitalisation, ça serait obligatoire.
En effet, on n'est pas dans un système de fonds de pension, etc. Donc, elle serait éventuellement modulable. C'est-à-dire que les gens pourraient éventuellement échanger moins de retraites contre moins de cotisations, ou alors plus de cotisations contre plus
enfin,
de retraites.
Enfin, vous quand même le pouvoir d'achat, de fait, là aussi.
Non, alors, tout dépend.
Pour la capitalisation, mais pas pour la répartition.
Alors, non, non, mais alors là, vous mettez le doigt sur un vrai sujet qui est la question de la transition. Bon, clairement, si on l'avait fait il y a 30 ans, comme beaucoup de pays, on n'en serait pas là, ce serait peut-être mieux. Mais bon, allez, on ne va pas pleurer sur le lait renversé. L'idée, effectivement, c'est de trouver de nouvelles ressources pour faire monter ce pilier par capitalisation sans augmenter la pression déjà excessive, la plus forte du monde, je suis désolé, sur les actifs. Bon. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Ces solutions, ça peut être de doter en capital initialement le fonds, en utilisant le fonds de réserve des retraites, les réserves de l'Agirc-Arrco. Et puis aussi, il faut de nouvelles ressources. Et ce que je propose, je sais que c'est très impopulaire, eh ben, c'est de désindexer les pensions, mais non pas pour faire des économies comme ça de manière générale, mais pour les générations futures, pour préparer le futur. Et là, ça donne un sens politique à cette désindexation.
On va en parler.
Cette fiscalité est avantageuse, mais elle bénéficie surtout à des épargnants qui sont aisés et relativement âgés. Sandra Wabian, s'il y a quand même 11 millions de personnes qui ont un PER, ça veut dire quand même que l'idée de la retraite par capitalisation, ça leur parle, ça les intéresse.
Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, les gens ont déjà commencé en fait à épargner. L'épargne est assez élevée. Une des manières d'épargner la plus classique, c'est d'acheter son logement. Il y a quand même 60% de propriétaires en France, et c'est une des manières finalement d'avoir un montant au moment où on passe à la retraite. Le problème, c'est que les capacités d'épargne, elles ne sont pas également réparties dans la population française, et que notamment chez les 20% des ménages les plus modestes, On n'a aucune capacité d'épargne, c'est même on a des épargnes, c'est-à-dire qu'on va emprunter un peu à la famille, on va prendre des crédits à la consommation, etc. En gros, l'épargne en moyenne, c'est 11% des revenus, ça monte à 27% chez les hauts revenus et c'est à moins 29% chez les bas revenus. Donc on voit bien que cette capacité d'épargner, ce n'est pas que les gens n'ont pas envie de mettre de côté, c'est que ce n'est pas possible pour notamment les classes moyennes inférieures et pour les bas revenus.
Mais Bertrand Marc.
Inégalitaire, puisqu'effectivement, quand vous êtes riche, vous pouvez échapper en partie à la malédiction du système par répartition qui condamne les gens à avoir des retraites de plus en plus faibles en allant vers des plans d'épargne retraite avec une fiscalité par ailleurs très avantageuse, disons, à l'entrée, pas à la sortie. Et donc, c'est un système effectivement qui est inégalitaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je propose que si on met de la capitalisation, il faut qu'elle soit obligatoire pour que justement les salariés les plus modestes aient accès aux fruits du capital.
Quand vous dites obligatoire,
mais c'est des modalités. Je propose qu'il y en ait un au niveau national ou plusieurs qui peuvent être sectoriels.
Vous êtes pour, Agathe Berdère ?
Est-ce qu'il n'y en a pas ?
Voilà, il y a des entreprises qui ont des
salaires, ils
devraient avoir un plan d'épargne.
Mais sur le principe, en dehors de votre situation,
le principe ne va pas. En fait, vous avez évoqué plein de... Vous avez décrit le fonctionnement des PER et c'était très intéressant. En parlant déjà... Une chose, des actifs à risque. C'est important de se dire que la retraite par capitalisation, ça concourt aussi à la financiarisation de l'économie qu'on subit depuis les années 80. Pourquoi on est à un tel niveau de financiarisation de l'économie ? C'est que dans les années 70, il y a eu une réforme des retraites aux États-Unis qui a obligé les caisses de retraite à placer leurs actifs sur les marchés financiers et qui a conduit aujourd'hui aux crises qu'on connaît, au fait qu'il faut faire systématiquement remonter de la valeur aux actionnaires, aux fonds de pension et qui induit une déconnexion.
Alors, est-ce qu'on a une idée, par exemple, du rendement ?
Cotisation définie. Ça veut dire je sais combien je paye, je ne sais pas combien je reçois. Et c'est la différence.
Donc vous êtes, par exemple, satisfait de cela.
Après, mais on l'a fait. On l'a fait.
La CGT gère le système.
Après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement a décidé de prendre tous les actifs d'épargne retraite qui existaient à l'époque et de les inclure dans la sécurité sociale. Ça a été fait, ça a été accepté et ça a permis de construire le système par répartition.
Sandra Boisbier.
C'est donc possible.
Très défavorable, notamment aussi en liaison avec le vieillissement de la population. Donc on a une partie importante de la population qui est âgée et qui n'a pas du tout envie de participer.
Qui n'a pas envie de contribuer.
Après, si on regarde les données sur les niveaux de vie de la population, on se rend compte que le taux de pauvreté est quand même plus élevé chez les jeunes que chez les plus âgés, que si on prend en compte la propriété du logement, les plus âgés ont un niveau de vie qui est un petit peu supérieur à l'ensemble de la population.
À celui de leurs enfants.
Absolument. Voilà. Donc, effectivement, la question mérite d'être posée. Mais quand on interroge les Français, ils ne sont pas du tout pour que les retraités soient mis à contribution.
Sauf les pensions, effectivement, mais de les modérer sur le temps, les désindexant pendant un certain nombre d'années, pas ad vitam aeternam, pendant quelques années. Pour préciser, ce n'est pas lié, moi je le lis à la question de la capitalisation, mais de toute façon, si on garde le régime tel qu'il est aujourd'hui, la seule façon, sauf à faire ce que vous proposez, c'est-à-dire des taxations gigantesques sur les actifs, nouvelles, la seule solution de soutenir le système actuel, même si on n'introduit pas de capitalisation, c'est bien de faire contribuer les retraités, c'est-à-dire 16 millions de personnes, à l'effort de redressement financier.
Des retraités qui ont gagné leur indexation des retraites sur l'inflation, ce qui n'était pas gagné au départ, et c'est grâce à leur mobilisation, notamment...
C'est parce qu'ils votent aussi, et qu'on a gagné ça, et c'est de gens qui ne voulaient pas se les aliéner.
Parce que cette désindexation, c'était... à la fois absurde et injuste. Pourquoi c'est absurde ? Les retraités, ils ont travaillé, cotisé toute leur carrière pour arriver à la retraite, pour vivre de leur retraite, et qu'après on leur dise « il va falloir que tu aies moins de retraite pour financer ta retraite ». Enfin, il y a un truc complètement absurde dans ce système. Et par ailleurs, c'est systématiquement un jeu à somme nulle. En fait, si on baisse aujourd'hui la retraite de nos grands-parents, qui va prendre en charge leur niveau de vie ? C'est leurs enfants, c'est mes oncles, mes tantes, c'est moi-même. Donc ça pèse après sur la famille, sur l'entourage, et ça joue sur l'autonomie des retraités à la retraite. Je voulais juste parler d'une chose, c'est que justement, les retraités continuent de se mobiliser, et le 20 mars, il y aura une grande mobilisation des retraités pour notamment leur accès à la santé, puisqu'il y en a 700 000 qui n'ont plus de complémentaire santé.
Très bien.